VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 11 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Amnesty International demande l'annulation des condamnations prononcées contre 5 activistes au Niger.
Amnesty International condamne par ailleurs les atteintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika briguera un 5e mandat à la présidentielle du 18 avril.
En Syrie, les FDS avancent dans la dernière poche du groupe État islamique.
Ici à Washington, on n'écarte pas un autre shutdown en fin de semaine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les condamnations à 3 mois de prison avec sursis prononcées contre 5 activistes du Niger doivent être annulées. C'est ce qu'a déclaré Amnesty International ce 11 février, jour de leur audience en appel, prévue dans la capitale, Niamey. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ali Idrissa Nani, Noua Zika, Moussa Tchangari, Ousseinou Mena, Mamoudou Seni Seni et plusieurs autres manifestants avaient été déclarés le 24 juillet dernier coupables d'organisation et participation à une manifestation interdite, incitation à la violence et à l'agression et destruction de biens au terme de leur procès en première instance. Ils avaient écopé d'une condamnation de 3 mois de prison avec sursis et avaient interjeté appel. Alors qu'ils comparaîtront libres en appel aujourd'hui, 2 autres activistes, Lirwana Abdourahman et Sadat Ilia Dan Malam, attendent toujours en détention leur procès. Le 25 mars dernier, une manifestation interdite par les autorités avait été organisée contre la loi des finances prévoyant des mesures d'austérité. Ali Idrissa et les autres activistes avaient été arrêtés avant la manifestation à leur bureau et domicile. Aucun d'entre eux n'avait été arrêté sur le terrain des manifestations. Après plus de 4 mois de détention préventive, ils ont été jugés et condamnés avec sursis.
Amnesty International dresse par ailleurs un bilan sévère des atteintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire dans un rapport publié ce lundi. Elle déplore arrestations et emprisonnements arbitraires, harcèlement contre l'opposition, la société civile et les médias. 7 ans après la crise post-électorale qui a coûté la vie à 3000 personnes, la Côte d'Ivoire projette une image de relative stabilité favorisée par une forte croissance économique et par un retour sur la scène internationale. Mais la situation en matière des droits de l'homme demeure fragile à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle, affirme l'ONG de défense des droits de l'homme.
D'excellents soins de santé de base pour vaincre les maladies les plus meurtrières en Afrique, c'est possible sur le continent malgré la pauvreté de certains pays, a plaidé le philanthrope américain Bill Gates à Addis Abeba à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Nathalie Barge.
En consacrant des sommes modestes à des problématiques prioritaires, on peut engranger des résultats phénoménaux, a soutenu M. Gates, évoquant l'accès à certains vaccins antibiotiques ou à des infrastructures de base. Monsieur Gates, dont la fondation a consacré 15 milliards de dollars à l'Afrique depuis 2000, a participé au lancement d'une initiative pour augmenter les investissements dans le secteur des soins de santé. À l'origine de cette initiative, le président rwandais Paul Kagame a appelé les pays africains à consacrer au moins 15% de leur budget aux soins de santé. Les États avaient consacré environ 7,5% de leur budget à ce secteur en 2016. Selon l'Union africaine, plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à des services de santé essentiels. 70% des personnes atteintes du sida vivent en Afrique et les maladies infectieuses restent parmi les principales causes de mortalité. Les chefs d'État et de gouvernement africains sont dans la capitale éthiopienne pour le sommet de l'Union africaine, au cours duquel Paul Kagame a passé le témoin à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi, qui a officiellement pris la présidence tournante de l'organisation lors de la cérémonie d'ouverture.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle du 18 avril pour un cinquième mandat. Il l'a annoncé dans un message à la Nation diffusé par l'agence d'État APS. De nouveau, Nathalie Barge.
Samedi, le parti FLN d'Abdelaziz Bouteflika, membre de l'alliance présidentielle, a organisé un grand rassemblement de soutien au chef de l'État. Ce dimanche, jour de l'annonce de sa candidature, le président a par ailleurs nommé un de ses conseillers à la tête du Conseil constitutionnel. L'ancien magistrat et ex-ministre Tayeb Belaïz a déjà occupé ce poste entre mars 2012 et septembre 2013. Il remplace Mourad Medelsi, décédé en janvier. Le Conseil constitutionnel est chargé de valider les candidatures à la présidentielle, proclamer les résultats définitifs et aussi de lancer la procédure de constat d'empêchement du chef de l'État pour cause de maladie grave et durable. À l'époque, les appels s'étaient multipliés en vain pour que le Conseil lance une procédure d'empêchement de M. Bouteflika, victime en 2013 d'un AVC et hospitalisé 80 jours en France. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis 1999, apparaît rarement et ne s'exprime plus en public. Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 3 mars à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel.
Au Soudan, des centaines de manifestants qui se dirigeaient vers une prison pour femmes à Omdurman ont été dispersés dimanche par des tirs de gaz lacrymogène. Ils exigeaient la libération de manifestantes arrêtées. Le pays est en proie à un mouvement de contestation qui dure depuis près de 2 mois et qui insiste maintenant sur le départ du président Omar al-Béchir au pouvoir depuis 1989.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, les FDS, appuyés par les États-Unis, annoncent avoir repris 41 positions tenues par les militants du groupe État islamique dans le cadre de leur assaut contre la dernière enclave que contrôlent les djihadistes dans l'Est. Un porte-parole des forces démocratiques syriennes a déclaré hier dans un tweet que cette alliance arabo-kurde a détruit les fortifications au village de Baghouz, mais que de violents combats s'y déroulaient.
Affaire Jamal Khashoggi, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, soutient que les autorités de son pays ne savent toujours pas où se trouve le corps démembré du journaliste, malgré l'arrestation d'agents venus de Riyad pour l'assassiner à Istanbul, en Turquie. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne américaine CBS, le ministre Adel Al-Jubeir a fait ignorer où se trouve le corps de Khashoggi. Selon lui, le procureur saoudien chargé de ce dossier attend encore des informations de la Turquie. « Nous enquêtons toujours », a répondu Jubeir à la journaliste qui lui demandait pourquoi les agents saoudiens en détention n'avaient pas pu dire où ils se trouvaient. Selon le New York Times, jeudi, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman avait affirmé en 2017 qu'il irait jusqu'à utiliser une balle contre le journaliste Jamal Khashoggi si ce dernier ne cessait pas ses critiques contre le royaume. « Je ne ferai pas de commentaires sur des informations basées sur des sources anonymes », a répliqué Adel Al-Jubeir sur CBS. Le prince héritier, nous le savons, n'a pas donné l'ordre de faire cela. Il ne s'agissait pas d'une opération approuvée par le gouvernement, a souligné le ministre saoudien.
Ici à Washington, le gouvernement fédéral fait face à une date limite ce vendredi pour éviter un autre shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle de ses bureaux. Les négociateurs du Congrès butent, dit-on, sur la question épineuse du financement du mur que le président Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Les démocrates sont prêts à offrir quelques fonds, mais pas les 5,7 milliards de dollars réclamés par M. Trump. Hier, le sénateur républicain Richard Shelby a parlé d'une impasse et s'est dit plutôt pessimiste. Et le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, n'a pas exclu un autre shutdown.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim face à Nicolas Maduro, a averti hier les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires car, je cite, « c'est un crime contre l'humanité ». Plusieurs tonnes d'aliments et de médicaments envoyés des États-Unis sont stockés depuis jeudi dans des entrepôts en Colombie, près du pont international de Tienditas, barré par les militaires vénézuéliens avec deux conteneurs et une citerne. Monsieur Maduro affirme que l'urgence humanitaire est fabriquée depuis Washington pour intervenir au Venezuela. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La campagne cotonnière 2018-2019 au Cameroun va recevoir un prêt de 64 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement. Selon Investir au Cameroun, ce financement destiné notamment à la Société de développement du coton, Sodécoton, servira à acquérir des intrants agricoles, du coton graines et de graines de soja auprès de 250 000 producteurs encadrés par la Sodécoton. Le Zimbabwe bénéficiera de 100 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux d'ici le deuxième trimestre de l'année 2019. Ce nouveau fonds accordé par une structure appelée Masiyiwa Rural Challenge sera financé à 100% par l'homme d'affaires zimbabwéen Strive Masiyiwa. Les financements seront accordés sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt maximal de 5%. Plafonné à un maximum de 10 000 $ avec une base minimale de 1 000 $, il devrait être accordé sans garantie. Pour finir, Total vient d'annoncer un résultat net de 13,6 milliards de $ en 2018, soit une hausse de 28% par rapport à 2017. Le montant équivaut à une rentabilité des capitaux employés d'environ 12%. Ce chiffre est porté par la hausse des prix du pétrole qui s'est négocié à 71 $ par baril en moyenne en 2018 contre 54 $ par baril en 2017. D'après la Tribune, ce chiffre est aussi soutenu par l'expansion des projets du groupe, notamment en Afrique où Total détient près d'un tiers de ses activités.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 20 ans au Niger et on connaît tous les qualifiés pour les demi-finales.
Oui, et ils seront aussi les 4 représentants africains à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en mai prochain en Pologne. De belles affiches. Sénégal, Afrique du Sud, Nigeria, Mali et ce sera mercredi prochain à Niamey.
Au niveau des clubs, Ismaili a été réintégré en Ligue des champions pour la CAF.
C'est la commission d'appel de la Confédération africaine de football qui a décidé lors d'une réunion tenue hier dimanche. Rappelons que les Égyptiens ont été disqualifiés de la phase de poule de la Ligue des champions par la CAF après les incidents survenus lors du match disputé à domicile face au club africain lors de la deuxième journée. L'instance du football africain a accepté d'étudier leur appel à la lecture du règlement. Ismaili va pouvoir disputer la suite de la compétition.
On reste sur le continent pour faire le point sur quelques championnats.
Et on commence par la Guinée avec la dixième journée de la Ligue. Ligue 1. À Kamsa, le centre industriel de Essentoba ont fait jeu égal 0-0. Un nul qui fait les affaires de Essentoba qui déloge le Oroya qui a 5 matchs de retard de la seconde place avec 14 points. Afia, vainqueur 2-0 de Satellite, est toujours leader au classement avec 18 points. Au Bénin, deux grands débits ont marqué la 15e journée. À Parakou, Buffalo conforte sa première place au classement avec 32 points suite à son succès 1-0 devant les Panthers de Djougou. À Lokosa, Tonnerre de Boïcon et Dynamo d'Abomey ont fait jeu égal 1 but partout. La jeunesse sportive de Poubert en profite pour prendre la deuxième place suite à sa victoire 3-0 à Aspac. Béké, classé 3e, a eu raison de Soleil 1-0. Et puis, notons le réveil des Dragons de Lomé qui sont allés battre Upi Onem 4-0. Deuxième journée au Cameroun, pas de vainqueur dans le début de Douala entre New Stars et Union Sportive dans le groupe A. Score 1 but partout. Même résultat entre Focho et USM de Loum. Dans le groupe B, Fovu de Baram a été accroché à domicile par Edin Sport. Par contre, le Stade Renard a battu Fortuna 1-0.
On reste au Cameroun pour parler cyclisme avec ce succès érythréen du Tour de l'Espoir.
C'était attendu et c'est bien Jacob Debesay qui remporte la deuxième édition de cette compétition, même si c'est le Rwandais Moïse Mugisha qui s'adjuge la dernière étape dans les rues de Yaoundé. Les Érythréens ultra-dominateurs ont gagné 3 des 5 étapes et placent 3 coureurs parmi les 5 premiers.
Basketball, on connaît les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de l'Afro League, la nouvelle Coupe d'Afrique des clubs champions.
Oui, il s'agit des Angolais de Primeiro do Agosto et des Égyptiens d'Al Ahly. Ils seront présents dans le top 8 et placent à présent aux équipes du groupe D qui s'affronteront le week-end prochain à Antananarivo à Madagascar. Et puis la NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Dallas et Portland 102-101, Philadelphie et LA Lakers 143-120, Sacramento et Phoenix 117 à 104, Orlando et Atlanta 124 à 108, Golden State et Miami 120 à 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, la tension monte entre le principal parti d'opposition, le PDP, de l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le parti au pouvoir, l'APC, du président Muhammadu Buhari, à quelques jours de la présidentielle. À l'origine de cette tension, le candidat Atiku aurait été empêché de tenir son meeting ce week-end sur une place publique à Abuja, la capitale fédérale. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'être derrière cette interdiction. D'Abuja, notre correspondant Gilbert Tamba.
Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique, le PDP, devait tenir son meeting à Abuja samedi après avoir sillonné plusieurs États dans le cadre de sa campagne. Le scrutin présidentiel du 16 février oppose principalement cet ancien vice-président et riche homme d'affaires au président sortant Buhari du Congrès des progressistes APC. Problème, il s'est vu refuser l'accès au site qui était destiné au meeting, bien que son parti, le PDP, dit avoir reçu une autorisation officielle et a même payé pour la tenue du meeting. Kola Oluwodunyan, le porte-parole, crie à une injustice.
L'argent a été payé à l'administration du territoire de la capitale fédérale. D'après le compte-rendu qui nous a été fait, ils ont reçu l'argent et on nous a dit qu'un cadre du département sera chargé d'aller mettre le site à notre disposition. Mais lorsque notre équipe est allée voir le responsable désigné, ce dernier les a informés qu'il a reçu l'ordre de ne pas le faire.
Au final, le meeting du samedi a été annulé, mais le parti insiste qu'il tiendra obligatoirement son meeting à Abuja avant la présidentielle. Kola Oluwodunyan.
Le gouvernement ne peut pas nous empêcher d'utiliser une place publique à Abuja. Ce n'est pas possible. Ce pays nous appartient tous. Il ne s'agit pas des intérêts d'un homme ou de quelqu'un, mais plutôt d'un pays. En plus, c'est la démocratie et pour votre information, nos ancêtres se sont battus pour instaurer cette démocratie.
Réagissant dans un communiqué, le parti au pouvoir APC affirme que le parti n'est pas propriétaire du lieu où devait se tenir le meeting. En aucune façon, nous aurions pu leur interdire l'accès à un lieu que nous ne possédons pas et sur lequel nous n'avons aucun contrôle, souligne le parti. Question, qui a donc autorisé l'interdiction d'accès au site du principal adversaire du président sortant, Muhammadu Buhari, qui se trouvait en ce moment même à Lagos, la capitale économique du pays, pour son meeting? On ignore jusqu'ici la réponse à cette question et les autorités fédérales se refusent à tout commentaire. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Mali, la communauté musulmane exige la démission du Premier ministre, selon notre correspondant sur place. Elle a lancé cet appel hier au cours d'un rassemblement dit de prière et de bénédiction pour la paix et la réconciliation au Mali. Cette rencontre avait été organisée par le Haut Conseil islamique du Mali au stade du 26 mars de Bamako, où les leaders présents ont déploré la situation de conflit intercommunautaire dans le centre du pays, l'insécurité généralisée et ce qu'ils ont appelé la mauvaise gouvernance. De Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Très tôt le matin, les gradins du stade du 26 mars étaient pris d'assaut par les fidèles musulmans. Ils ne voulaient pas rater ce meeting. Mamadou Djamtani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali.
L'État, en dépit du soutien de la communauté internationale, peine à apporter une réponse appropriée à la question sécuritaire dans notre pays. Dénonçons avec la dernière énergie tous ceux qui, de près ou de loin, portent une responsabilité, si minime soit-elle, dans la survenance et ou l'activation des conflits intercommunautaires. Angleterre, demandant ici et maintenant aux communautés en conflit de privilégier les mécanismes de résolution des crises définis par nos valeurs sociétales et religieuses. Lançons un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à pardonner, se repentir et à prier pour le Mali.
La mauvaise gouvernance, la gestion de la situation sécuritaire au centre du pays, mais surtout l'intervention de certains pays dans la gestion de la crise que connaît le Mali, ont été dénoncés par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Imam Mahmoud Diko.
Nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout. On est en train de nous distraire. Il faut l'arrêter et il faut l'arrêter. Il faut qu'on refuse ça. Non, un pays ami est un pays ami. Nous collaborons avec tout le monde. On préserve les intérêts des uns et des autres. Le désordre et bientôt c'est l'anarchie. Nous, Massabeli, on va leur dire de dégager.
Les jeunes, les femmes, les ligues des imams ont tous pris la parole. Mais c'est le représentant du shérif de Nioro qui a demandé la démission du premier ministre, Mohamed Sangaré, jeune activiste.
Ces gens-là jouissent d'une force incommensurable. Parce que vu la taille de la mobilisation, ça n'en parle pas. Prouvez au chef d'État malien que tout de suite et maintenant, qu'il fasse tous les moyens pour déloger son premier ministre du gouvernement. Ils ont dit également qu'ils vont plus se limiter à leur religion, sinon à la bonne pratique de leur religion. Ils vont essayer maintenant de se mettre en avant-garde concernant la gouvernance actuelle de cet État.
La tension monte entre le premier ministre et le Haut Conseil islamique. On n'est pas plus impressionné que ça, souligne Soumelou Boubé Maïga, premier ministre.
Là, nous avons affaire à des acteurs hybrides qui poursuivent le même objectif politique sous différentes facettes, mais c'est le même objectif politique. Donc nous devons rester extrêmement vigilants par rapport à cela et nous convaincre que si nos adversaires étaient aussi forts, nous ne serions pas ici. Tous ceux qui s'agitent là sont des gens qui ont voté et fait voter contre nous, qui agissent et continuent d'agir contre nous et qui pensent trouver des interstices ou des passages pour continuer de nous affaiblir. Bon, nous continuerons de faire face.
Ce grand meeting du Haut Conseil islamique du Mali s'est déroulé sans incident majeur selon ses organisateurs.
Ce meeting a été à hauteur de souhait. À partir du moment où les leaders religieux ont essayé de mettre en exergue tout ce qu'ils avaient en tête comme soucis et comme doléances, et que je trouve que dans les jours à venir, le gouvernement aussi va se ressaisir concernant ces dérapages, ces différents dérapages. Parce qu'il n'est pas vraiment évident de voir tout le monde réuni. Hein? Depuis hier soir jusqu'à cet instant, vous voyez, sous le soleil ardent.
Tout au long de ces rassemblements, les religieux ont demandé la gestion saine du pays, la sécurisation des personnes et leurs biens, la cohésion sociale et la paix. Le meeting s'est achevé par des prières et des bénédictions pour la paix au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, célébration de la fête nationale de la jeunesse. Selon notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tape, de nombreux jeunes sont confrontés au chômage, ce qui a amené certains à se lancer dans des initiatives d'auto-emploi.
En prélude à la fête nationale de la jeunesse, pendant 5 jours, plus d'une centaine de jeunes Camerounais ont présenté au public à Yaoundé leurs activités d'auto-emploi et génératrices de revenus. Marianne Astrid Métiebou s'est associée à une autre jeune Camerounaise et s'auto-emploie dans un secteur d'activité aux antipodes de sa formation initiale.
Je suis technicienne médico-sanitaire option imagerie médicale. Je suis phytothérapeute, mais après toutes ces formations, je n'arrive pas à trouver l'emploi. J'ai pensé à faire quelque chose avec mes doigts. Ce sont des babouches tricotées. Nous partons au marché, nous achetons les semelles et puis nous faisons des motifs, nous créons. On tricote avec des différentes couleurs et on nous a juste appris un motif et avec l'esprit créatif, on a poussé loin.
Basée à Yaoundé, la petite entreprise de Marianne emploie et forme d'autres jeunes Camerounais. Joël Katiendou a aussi son propre parcours.
Je suis ingénieure informaticienne à la base.
Mais Joël s'est lancé dans une entreprise de fabrication de produits cosmétiques.
Fin 2017, l'activité commerciale prend corps. Ces produits, les laits de toilette, ils sont à 60% bio, tandis que la pommade capillaire, elle est à 95% bio. En 2018, nous avons commencé la vente sur Jumia, sur Bensi.
Avec un taux de chômage des jeunes en milieu urbain officiellement de 15,5% au Cameroun, le gouvernement encourage désormais l'entrepreneuriat des jeunes.
Nous avons le concept de business challenge, ça veut dire la compétition entre entre les jeunes âgés de 15 à 35 ans, porteurs de projets ou porteurs d'idées de projets.
Carole Eone, sous-directeur de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique.
Pour cette année, les domaines de compétition étaient l'agriculture, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'artisanat et l'industrie. La sélection régionale a été faite et puis nous avons par la suite fait la sélection au niveau national.
Le savoir-faire des jeunes Camerounais en matière de taux d'emploi ne laisse pas indifférent leurs congénères. Christophe est étudiant à Yaoundé.
Il y a des innovations, on retrouve des jeunes créatifs à travers cet projet. En tant que visiteur, j'ai vraiment trouvé mon compte comme jeune et je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'opportunités au Cameroun pour les jeunes dans le secteur privé.
Selon le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la boussole du développement au Cameroun, le sous-emploi des jeunes Camerounais est encore très élevé. Il est de l'ordre de 70%. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, près de 30 tonnes de produits pharmaceutiques illicites ont été saisies à Ouagadougou ces derniers jours. Une opération menée par la police qui révèle un vaste réseau dont plusieurs membres ont été arrêtés. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
L'opération de la police contre les produits pharmaceutiques illicites a été menée fin janvier, début février à Ouagadougou. C'est l'aboutissement d'un long processus d'enquête et de filage. Une saisie bien importante.
142 mètres cubes, soit 28,40 tonnes de produits pharmaceutiques illicites, ont été saisis à l'issue de cette opération.
Le commissaire principal de police, Boukari Traoré, coordonnateur de l'opération, par ailleurs membre du Comité national de lutte contre la drogue.
Les principales catégories thérapeutiques illicites sont constituées des antidouleurs, dont des analgésiques, antipyrétiques, les antipaludiques, les antibiotiques, les vitamines et les produits de confort. À cela, il faudrait ajouter le tramadol qui est détourné à des fins de stupéfiants.
Les frontières du pays étant poreuses, les trafiquants font entrer ces produits d'Asie en transitant par le Nigeria, le Ghana et le Togo avant d'arriver au Burkina. Dominique Wangrawa, inspecteur des douanes, explique que le mode opératoire est connu.
Les procédures, les itinéraires, même les points de dépôt, c'est l'action qui reste. La provenance, surtout les régions du centre-est et de l'est, c'est par ces régions que ça rentre au Burkina Faso. Donc la provenance du Nigeria, c'est le Ghana, c'est le Togo. Surtout le Togo, on a un problème avec le Togo. Donc il faut une collaboration franche avec les autorités togolaises pour essayer d'enrayer le phénomène.
Le trafic de produits pharmaceutiques illicites constitue un problème de santé et de sécurité publique. Ces produits sont vendus dans des marchés et sur des voies publiques.
On est en train de s'empoisonner en consommant ces produits illicites, du marché illicite.
Sandrine Estelle Gampiné, directrice générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique.
On sait dans quelles conditions ces médicaments-là sont conservés. Au-delà d'une certaine température, quelle que soit la manière dont ton médicament a été fabriqué, il n'est plus bon, il devient un poison. C'est peut-être accessible, mais on détruit notre organisme et on se crée des problèmes en allant consommer. L'effet de la chaleur détruit le principe actif. La transformation du produit chimique, là, les effets sont dans le long terme. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale, beaucoup de problèmes de pathologie métabolique.
Le marché des médicaments illicites représente 10 à 60% du marché global, suivant les pays, selon les responsables de l'opération. Toutes les formes thérapeutiques sont touchées par le phénomène, y compris les vaccins et les médicaments injectables. Les produits saisis sont en cours d'analyse en vue de déterminer leur qualité. Les coupables sont passibles de sanctions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir,
VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Au micro, Idrissa Seroudia. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.